Chapitre 6. Une femme indépendante. Une petite bruine tombait du ciel couvert. L'eau dégouttait sans fin des buissons dans le jardin. Des feuilles roussies, détrempées, jonchaient les pelouses gorgées d'eau. Cérille laissa retomber le rideau bordé de dentelle. Elle se retourna vers la pièce. La grisaille du jour s'était insinuée dans la maison et Cérille se sentait glacée et vieille dans son étreinte. Elle avait ordonné qu'on tirât les rideaux et qu'on allumât du feu pour tenter de réchauffer la pièce. Mais loin de se sentir plus à l'aise, elle avait l'impression d'être enveloppée, prise au piège. L'hiver arrivait insidieusement à Terrilville. Elle frissonna. L'hiver était au mieux une saison désagréable. Cette année s'y ajoutaient le désordre et les troubles. La veille, escortée par une garde imposante, elle avait quitté la propriété de Restart pour se rendre en voiture à Terrilville. Elle avait ordonné aux hommes de traverser la ville, le vieux marché, et de longer les quais. Partout, elle avait vu ruines et destruction. Elle avait cherché en vain des signes de réfection, de renouveau dans la cité bouleversée. Les maisons et les boutiques incendiées exhalaient une odeur tenace de désespoir. Les embarcadères se terminaient en langues de bois calcinées. Deux mâts pointaient des eaux mornes du port. Les passants, emmitouflés et encapuchonnés contre le froid, marchaient à pas pressés. Ils détournaient les yeux à la vue de la voiture. Même dans les rues où patrouillaient les vestiges de la garde municipale, on sentait l'oppression et la nervosité. Disparus les salons de thé animés et les corporations de marchands prospères, la ville gaie et affairée qu'elle avait traversée lors de son premier trajet vers la maison de David Restart était morte. Ne subsistait que ce fouillis de ruines nauséabondes. La rue du désert des pluies n'était plus qu'un alignement d'échoppes condamnées et de boutiques abandonnées. Les rares endroits ouverts avaient un aspect méfiant, inquiet. À trois reprises, le véhicule avait dû faire demi-tour, arrêté par des barricades de décombres. Elle avait compté dénicher des marchands, des citadins s'efforçant à reconstruire. Elle avait imaginé qu'elle descendrait de sa voiture pour les saluer et les féliciter. Ils l'auraient invitée à pénétrer dans leur boutique en réparation, lui auraient espéré l'avancée des travaux. Elle les aurait congratulés, aurait loué leur vaillance, ils auraient été honorés de sa visite. Elle avait espéré s'acquérir leur loyauté et leur amour. Or, elle n'avait vu que des réfugiés harcelés, des mines renfrognées et fermées. Personne ne l'avait même saluée. Elle avait regagné la maison de Davad et était simplement montée se coucher, sans dîner, l'appétit coupé. Elle se sentait flouée. Terrilville, c'était la babiole rutilante qu'elle s'était toujours jurée de posséder un jour. Elle était venue de si loin, elle avait tant enduré, tout cela pour seulement l'entrevoir. Comme si le sort lui refusait toute joie au moment même où elle croyait atteindre son but, la cité s'était elle-même détruite. Une partie d'elle désirait simplement admettre la défaite, embarquer sur un navire et rentrer à Jamelia. Mais il n'y avait plus de navire pour la ramener en toute sécurité à Jamelia. Les Chalcédiens étaient à l'affût du moindre vaisseau qui tentait de quitter le port ou d'y entrer. Et à supposer qu'elle puisse, d'une façon ou d'une autre, atteindre Jamelia, quel accueil lui réserverait-on? Le complot contre le gouverneur prenait racine là-bas. On pourrait la considérer comme un témoin et une menace. On trouverait bien un moyen de l'éliminer. Elle avait conçu des soupçons depuis que le gouverneur avait proposé de faire cette petite balade à Terrilville, puis d'aller ensuite visiter Chalcède. Ses nobles et conseillers auraient dû protester vigoureusement à l'annonce de ce départ. Il était rare qu'un gouverneur s'aventurât au-delà des frontières de Jamelia. Bien loin d'avoir rencontré des objections, il n'avait reçu que des encouragements. Elle soupira. Cette même bande de flagorneurs qui lui avait appris si jeune les plaisirs de la chair, du vin et des herbes capiteuses l'avait incité à leur abandonner complètement le gouvernement de ces terres pendant qu'ils traverseraient des eaux hostiles aux bons soins d'alliés douteux. Jobard et paresseux, il avait gobé la mouche. Alléché par les invites de ses alliés chalcédiens qui lui promettaient des drogues exotiques et des plaisirs charnels plus exotiques encore, il avait été éloigné de son trône comme un enfant qu'on appâte avec des friandises et des jouets. Ses partisans les plus « loyaux » qu'il avait toujours poussé à agir à sa guise avait ainsi réussi à le détrôner. Subitement, une idée vint la frapper. Elle ne se souciait pas autrement de ce qu'il en irait du gouverneur et de son autorité à Jamelia. Elle ne désirait que préserver le pouvoir qu'il avait ici pour se l'approprier, elle. Il fallait donc découvrir qui, à Terrilville, avait été si empressé de contribuer à sa chute. Les mêmes tâcheraient de la déposer, elle aussi. Durant un bref instant, elle regretta de ne s'être pas penchée davantage sur Calcède. Dans la chambre du capitaine, elle avait vu des lettres en calcédien, rédigées en caractères jaméliens. Elle avait reconnu les noms de deux grands nobles et des sommes d'argent. Elle avait deviné alors qu'elle tenait entre ses mains la source d'une conspiration. Pour quel service les calcédiens avaient-ils été payés? Ou bien étaient-ce eux les commanditaires? Si elle avait été capable de lire ces lettres quand le capitaine calcédien la retenait prisonnière, alors elle se déroba. Elle avait horreur de penser à ce que ces jours de cauchemar où elle avait été détenue et violée avaient fait d'elle. Elle en avait été irrémédiablement changée, et d'une façon qu'elle méprisait. Elle ne pouvait oublier que le capitaine calcédien avait eu sur elle un droit de vie et de mort. Elle ne pouvait oublier que le gouverneur, cet homme infantile, gâté, jouisseur, avait eu le pouvoir de la placer dans cette situation. Ce qui avait pour toujours altéré l'image qu'elle se faisait d'elle-même. Elle avait été forcée de reconnaître l'empire que les hommes avaient sur elle. Eh bien, ce pouvoir, elle le détenait désormais, et aussi longtemps qu'elle le garderait, elle serait en sécurité. Aucun homme ne pourrait plus lui imposer sa volonté. Elle était forte de son éminente position. Cette position la protégerait. Elle devait s'y maintenir, coûte que coûte. Cependant, le pouvoir avait un prix. Elle releva encore le coin du rideau et scruta au dehors. Même ici, à Terrilville, elle n'était pas à l'abri de tentatives d'assassinat, elle le savait. Elle ne sortait pas sans être accompagnée. Elle ne dînait jamais seule, et elle s'assurait que ses hôtes soient servis avant elle des mêmes plats auxquels elle goûtait elle-même. Si l'on parvenait à l'assassiner, du moins ne mourrait-elle pas seule. Mais elle ne les laisserait pas la tuer ni lui ravir l'influence qu'elle avait eu tant de mal à s'acquérir. Ce pouvoir était menacé, mais elle pouvait déjouer ses menaces. Elle pouvait garder le gouverneur en relégation et l'empêcher de communiquer. Pour son bien, naturellement. Elle s'autorisa un petit sourire. Elle regrettait qu'on l'eût emmené si loin. S'il avait été ici, à Terrilville, elle aurait pu veiller à ce qu'il jouisse de ses herbes à plaisir et du confort qui l'aurait rendu malléable. Elle aurait pu trouver un moyen de le séparer de Keki. Elle aurait pu le convaincre qu'il était plus sage d'adopter un profil bas et de la laisser s'occuper des affaires. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Elle laissa retomber le rideau et se retourna. « Entrez !» La servante avait la figure tatouée. Séry jugeait répugnant le tatouage qui s'étendait comme une araignée verte sur sa joue. Elle évitait le plus possible de la regarder. Elle s'en serait bien séparée, mais l'esclave était la seule qu'elle ait pu dénicher qui soit formée convenablement aux usages courtois de Jamelia. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle à la femme qui faisait la révérence. « La marchande Vestrit désire vous parler, compagne Séry. »« Faites-la entrer, » répondit Séry d'un air absent. Son moral déjà bas descendit d'un cran. Elle savait qu'il était sage de garder cette femme à proximité de manière à pouvoir la surveiller. Rhode Cairn lui-même en avait convenu. Au début, Séry avait été enchanté de sa ruse. Au cours d'une réunion secrète, les chefs du Conseil des marchands avaient été horrifiés quand elle avait exigé l'arrestation de Ronica Vestrit. Même en s'étant troublé, il refusait de reconnaître la sagesse d'une telle décision et le souvenir de cet affrontement la faisait encore grincer des dents. L'incident lui avait révélé les limites de son pouvoir sur eux. En revanche, elle avait démontré au chef du conseil son ingéniosité. Par une requête gracieusement formulée, elle avait invité la marchande à demeurer chez Restart. Ronica devait prétendument assister Séry dans l'examen des papiers du marchand, non seulement pour prouver l'innocence de Davad, mais aussi la sienne. Après avoir un peu hésité, Ronica avait accepté. La compagne s'était d'abord félicitée de son idée. Ronica Vestrit vivant sous son toit, l'espionnage de Rhode en était simplifié. Il allait découvrir rapidement qui était de mèche avec elle. Mais la tactique de série avait un prix. Savoir que la marchande était là, tout près, c'était savoir qu'il y avait un serpent dans son lit. La conscience qu'on a du danger n'implique pas forcément sa neutralisation. Le jour de l'arrivée de Ronica, Seri avait été sûr de sa victoire. La marchande n'avait rien pris avec elle que les baluchons qu'elle portait avec sa servante. Celle-ci était une esclave affranchie tatouée qui traitait sa maîtresse quasiment sur un pied d'égalité. La dame Vestrit avait peu de vêtements et aucun bijou. Quand Ronica, dans la simplicité de sa mise, s'était assise au bas bout de la table ce soir-là, Seri s'était sentie triomphante. Cette pauvre femme ne constituait pas une menace. Elle deviendrait le symbole de la charité de la compagne, et elle finirait bien par trahir involontairement ses acolytes. Chaque fois qu'elle quittait la maison, Rhode la suivait. Cependant, depuis que Ronica s'était installée dans l'ancienne chambre de Davad, elle n'avait pas laissé un jour de paix à Seri. Elle la harcelait comme un moucheron. Alors que la compagne devait concentrer toute son énergie à consolider son pouvoir, Ronica la dérangeait à tout propos. Que faisait-elle pour débarrasser le port des épaves? Avait-on des nouvelles d'un secours éventuel de Jamelia? Avait-elle envoyé un oiseau à Calcède pour protester contre les attaques guerrières? Avait-elle essayé de s'acquérir le soutien des gens de trois navires afin qu'ils patrouillent la nuit dans les rues? Si on le leur proposait, peut-être les anciens esclaves préféreraient-ils travailler pour un salaire que vagabonder et piller? Pourquoi Seri n'avait-elle pas pressé le conseil de se réunir et de reprendre l'administration de la cité? Chaque jour, la marchande la harcelait avec ce genre de questions. Par-dessus le marché, elle ne manquait pas une occasion de rappeler à Seri qu'elle n'était qu'une étrangère. Quand la compagne ne tenait pas compte de ses exigences, Ronica revenait avec une insistance lassante sur l'innocence de Davad et la mainmise abusive de Seri sur ses biens. La femme ne semblait pas avoir le moindre respect pour elle et ne lui témoignait même pas l'élégante courtoisie due à une compagne du gouverneur. Elle en était d'autant plus ulcérée qu'elle n'était pas assez sûre de sa position pour user de son autorité sur la marchande. Elle avait trop souvent cédé au harcèlement de cette femme. D'abord en faisant enterrer Davad, puis en rendant un verger à la nièce du traître. Céder ne faisait que l'encourager. Elle lui résisterait. Grâce à Rhode, elle savait à quoi Ronica employait ses matinées. En dépit des dangers de la rue, celle-ci se risquait avec sa servante à sortir tous les jours. Elle allait de porte à porte pour battre le rappel des marchands afin qu'ils se réunissent. D'après Rhode, elle était souvent éconduite ou accueillie avec brusquerie par ceux qu'elle visitait, mais elle était tenace. Comme la pluie sur une pierre, elle usait à la longue le cœur le plus endurci. Ce soir, elle remporterait son plus grand triomphe. Le conseil allait se réunir. Si les marchands écoutaient Ronica ce soir et concluaient à l'innocence de Davad, l'autorité de Seri en serait sérieusement entamée. Si le conseil décidait que la nièce devait hériter de la propriété, la compagne n'aurait plus qu'à quitter la maison Restart et elle serait forcée de demander l'hospitalité à un autre marchand. Elle perdrait son intimité et son indépendance. Elle ne pouvait laisser faire. Elle s'était doucement mais fermement opposée à la réunion du conseil, sous le prétexte qu'il était trop tôt, qu'il était risqué pour les marchands de se rassembler dans un endroit où l'on pouvait les attaquer. Mais il ne l'écoutait plus. Du temps, c'était tout ce qu'il lui fallait. Du temps pour renforcer ses alliances, du temps pour déterminer lequel pouvait être enjolé par des flatteries, lequel circonvenu par des promesses de titre ou de terre. Avec le temps, un oiseau apporterait peut-être des nouvelles de Jamelia. Un marchand lui avait communiqué un message provenant de son associé Jamélien. Des bruits couraient sur la mort du gouverneur et des émeutes étaient imminentes. Le gouverneur pouvait-il envoyer une missive de sa propre main pour démentir ces dangereuses rumeurs? Elle avait renvoyé un oiseau porteur d'un message rassurant. Il s'agissait de fausses rumeurs. Elle demandait qui avait reçu la nouvelle de la mort du gouverneur et d'où elle émanait. Elle doutait fort d'obtenir une réponse. Que pouvait-elle faire d'autre? Si seulement elle avait disposé d'un jour, d'une semaine de plus. Avec un peu plus de temps, elle était sûre de dominer le conseil. Alors, Grâce à son éducation supérieure, à son expérience de la politique et de la diplomatie, elle pourrait les mener à la paix. Elle pourrait les éclairer sur les compromis acceptables. Elle pourrait unir tous les habitants de Terrilville et à partir de là traiter avec les Chalcédiens. Ce qui, aux yeux de tous, établirait son autorité sur Terrilville. Du temps. C'était tout ce qu'il lui fallait, et Ronica le lui volait. La marchande Vestrit entra majestueusement dans la pièce. Elle portait un livre de comptes sous le bras. « Bonjour, » dit-elle sèchement. Elle suivit des yeux la servante qui se retirait.
« Ne serait-ce pas beaucoup plus simple si je m'annonçais moi-même, au lieu d'être obligé de chercher la servante pour qu'elle frappe à la porte et dise mon nom ?»«
Plus simple, mais pas convenable, » rétorqua froidement Sérille.
« Vous êtes à Terrilville maintenant, » répliqua Ronica d'une voix égale. « Ici, nous ne perdons pas notre temps à vouloir impressionner les gens. »
On aurait dit qu'elle apprenait les bonnes manières à sa fille indocile. Sans demander la permission, elle alla vers le bureau et ouvrit le registre qu'elle avait apporté.
« Je crois que j'ai trouvé quelque chose susceptible de vous intéresser. »
Sérille s'approcha du feu.
« Cela m'étonnerait. »
marmonna-t-elle aigrement. Ronica s'était beaucoup trop évertuée à rechercher l'épreuve. Ses incessantes manœuvres pour la confondre étaient mortifiantes et éventaient les propres supercheries de la compagne.
« Vous vous lassez déjà de jouer au gouverneur ?»
demanda sèchement Ronica.
« Ou bien vous adoptez l'attitude que vous présumez être celle d'un chef ?»
Sérille eut l'impression qu'on l'avait giflée.
« Comment osez-vous »
commença-t-elle, puis elle écarquilla les yeux.
« D'où tenez-vous ce châle ?»
Elle l'avait vu dans la chambre de Davad, jeté sur le bras d'un fauteuil.
« Se servir ainsi, quelle impudence !»
Les yeux de Ronica s'élargirent et s'assombrirent, comme si Sérille lui avait fait mal. Puis son visage s'adoucit. Elle caressa l'étoffe souple drapée sur ses épaules.
« C'est moi qui l'ai fait !»
dit-elle à mi-voix.
« Il y a des années, quand Dorille était enceinte de son premier enfant, j'ai teint la laine, je l'ai filée moi-même, le cadeau particulier d'une jeune mariée à une autre. Je savais qu'elle l'aimait, mais c'est touchant de découvrir que de toutes ses affaires, c'est ce châle que Davad a gardé en souvenir d'elle. Elle était mon amie. Je n'ai pas besoin de votre permission pour emprunter ses affaires. » « C'est vous qui êtes une intruse et une pillarde ici, pas moi. »
Sérille la regarda fixement, muette de fureur. Il lui vint l'idée d'une vengeance mesquine. Elle n'examinerait pas les preuves fragiles de cette femme. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Elle grinça des dents et lui tourna le dos. Le feu était mourant. Voilà pourquoi elle avait si froid tout à coup.
Il n'y avait donc pas de serviteur capable, à Terrilville ?
D'un geste furieux, elle saisit le tisonnier pour essayer de ranimer les flammes.
« Vous allez vérifier ce registre avec moi, oui ou non ?»
demanda Ronica. Elle pointait le doigt sur une page comme si c'était d'une importance capitale.
Sérille laissa sa colère déborder. « Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai du temps à perdre avec ça ? Vous croyez que je n'ai rien de mieux à faire qu'à m'abîmer la vue sur les pattes de mouche d'Amor ? « Ouvrez les yeux, vieille femme, et regardez un peu les difficultés que Terrilville a à affronter au lieu de rester fixée sur votre obsession. Votre ville est en train de périr, et vos concitoyens n'ont pas le cran de se battre pour la sauver. Malgré mes ordres, des bandes d'esclaves continuent à piller et à voler. J'ai ordonné qu'ils soient arrêtés et enrôlés de force dans une armée pour défendre la ville, mais rien n'a été fait. Les routes sont bloquées par les décombres, mais personne n'a songé à les déblayer. » Les commerces sont fermés et les gens se terrent derrière leurs portes comme des lapins. »
Elle tisonna une bûche et fit jaillir une gerbe d'étincelles dans la cheminée. Ronica traversa la pièce et s'agenouilla devant l'âtre.
« Donnez-moi ça !»
s'exclama-t-elle dégoûtée. Sérille laissa tomber le tisonnier avec mépris. La marchande ne releva pas le geste offensant. Elle prit le tisonnier et se mit à soulever les brandons à demi consumés pour les replacer au milieu du feu.
« Votre point de vue sur Terrilville est erroné. Nous devons d'abord tenir notre port. Quant au pillage et au désordre,
je vous en tiens responsable, au même titre que mes concitoyens marchands. Ils restent là, bras croisés, comme une bande d'empotés, à attendre que vous ou un autre leur disiez quoi faire. Vous avez semé la division dans notre ville. Si vous ne vous étiez pas proclamé porte-parole du gouverneur, le conseil aurait pris les choses en main, comme il l'a toujours fait. À présent, certains disent qu'on doit vous écouter, d'autres qu'ils doivent d'abord s'occuper d'eux-mêmes, et d'autres encore, les plus sages selon moi, qu'on devrait réunir tous ceux qui sont du même avis dans la ville et se mettre à la tâche. Qu'importe désormais, qu'on soit premier ou nouveau marchand, habitant de trois navires ou simple immigrant. C'est la pagaille dans cette ville. Notre négoce est ruiné. Les Chalcédiens accueillent tous ceux qui se risquent à sortir de la baie des marchands pendant que nous nous chamaillons. »
Elle s'assit sur ses talons et regarda avec satisfaction le feu qui reprenait.
« Ce soir, peut-être allons-nous enfin remédier un peu à tout ça. »
Un terrible soupçon naissait dans l'esprit de Cérille. Cette femme avait l'intention de lui voler ses projets et de les présenter comme étant les siens.
« Vous m'espionnez? Comment se fait-il que vous en sachiez autant sur ce qui se dit en ville ?»
Ronica émit un reniflement de mépris. Elle se leva lentement et ses genoux craquèrent.
« J'ai des yeux et des oreilles, et c'est ma ville. Je la connais mieux que vous ne la connaîtrez jamais. »
Ronica soupesa le tisonnier froid dans sa main et scruta les yeux de la compagne. Le voilà de nouveau, cet éclair d'effroi sur son visage. Elle comprit soudain que des mots et des menaces appropriées pouvaient réduire cette femme à s'effondrer comme une enfant pleurnicheuse. Elle avait été complètement brisée. Elle n'était qu'une coquille vide d'autorité dissimulant un abîme de peur. La marchande ressentait parfois de la pitié pour elle. Il était presque trop facile de la malmener. Pourtant, quand lui venaient ses pensées, elle endurcissait son cœur. La peur rendait ses rilles dangereuses. Elle se sentait menacée par tous. Elle préférait attaquer la première, quitte à se tromper, plutôt qu'accepter l'éventualité d'une agression dirigée contre elle. La mort de Davad le prouvait. Cette femme prétendait à une autorité sur Terrilleville que personne, pas même le gouverneur, ne possédait. Pire, ses tentatives pour exercer son prétendu pouvoir morcelaient la capacité déjà bien réduite de Terrilleville à se gouverner elle-même. Ronica emploierait toutes les tactiques à sa disposition pour rendre à sa ville la paix et l'autorité. Tant que la paix ne serait pas revenue, elle n'aurait aucun espoir de retrouver sa famille ni même de savoir ce qui lui était advenu. Aussi, imita-t-elle le geste méprisant de la femme. Elle jeta le tisonnier sur la pierre de l'âtre. Elle surprit le tressaillement de la compagne quand l'objet atterrit avec fracas et roula sur le sol. Le feu était bien reparti. Ronica se retourna et croisa les bras en faisant face à ses rires.
Les gens bavardent, et si l'on veut vraiment savoir ce qui se passe, on n'a qu'à les écouter. Même les domestiques, quand on les traite comme des êtres humains, peuvent se révéler sources d'informations. Ainsi, ai-je appris qu'une délégation de nouveaux marchands conduite par Minxley vous a fait des ouvertures de trêve. C'est pourquoi il est si important, précisément, que vous regardiez ce que j'ai découvert dans les comptes de Davad. Vous pourrez procéder avec prudence dans vos rapports avec Minxley. »
Les joues de Cérille s'empourprèrent.
« Ainsi, par pitié, je vous invite chez moi et vous en profitez pour m'espionner ?»
Ronica soupira.
« Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Ce n'est pas en vous espionnant que j'ai obtenu cette information. »
Ce qui n'était pas le cas pour d'autres renseignements, mais il était inutile de le révéler pour l'instant.
« Et je n'ai que faire de votre pitié. J'accepte mon sort. J'ai déjà vu ma situation changer et cela se reproduira. Je n'ai pas besoin de vous pour la changer. »
Ronica émit un petit bruit amusé.
« La vie n'est pas une course pour rétablir le passé, et on ne doit pas se hâter non plus d'aller au-devant de l'avenir. Observez le changement, c'est ce qui rend la vie intéressante. »
« Je vois.
commenta Séri avec dédain.
Observez le changement. Alors là, c'est l'esprit intrépide de Terrilville dont j'ai tant entendu faire l'article.
Une patiente passivité devant ce que la vie vous réserve, comme c'est stimulant. Et ça ne vous intéresse pas de ramener Terrilville à sa situation passée?
Les tâches impossibles ne m'intéressent pas,
riposta Ronica.
Si nous concentrons nos efforts à revenir en arrière, nous sommes voués à l'échec. Nous devons avancer, créer une nouvelle ville. Elle ne sera jamais plus comme avant. Les marchands ne jouiront plus du même pouvoir, mais nous pouvons tout de même continuer. C'est cela le défi, compagne. Accepter ces expériences, les mettre à profit au lieu d'en rester prisonnier. Il n'est rien de plus destructeur que la pitié, surtout la pitié de soi. Il n'est pas d'épreuve si terrible dans la vie qu'on ne puisse la surmonter.
Le regard que lui adressa Séri était si singulier que Ronica sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'espace d'un instant, ce fut comme si une morte regardait par ses yeux. Elle déclara d'une voix neutre.
Vous êtes moins averti du monde que vous ne le croyez, marchande. Si vous aviez subi ce que j'ai bravé, vous sauriez qu'il est des épreuves insurmontables. Il est des expériences qui vous changent à jamais, aussi allègrement qu'on souhaite les oublier.
Ronica croisa fermement son regard.
Ce n'est vrai que, dans la mesure où vous avez décidé de le croire, ce terrible événement, quel qu'il soit, est passé, disparu. Si vous vous y accrochez, que vous le laissez vous façonner, vous serez condamné à le revivre perpétuellement. Vous lui accordez du pouvoir sur vous. Écartez-le, modelez votre avenir selon vos désirs, en dépit de tout ce qui vous est arrivé. Alors, vous l'aurez maîtrisé.
C'est facile à dire,
rétorqua sèchement Séri.
Votre optimisme puéril me paraît révéler une extraordinaire ignorance. Je crois que j'ai eu assez de philosophie de province pour aujourd'hui. Allez-vous-en.
Mon optimisme puéril, c'est l'esprit de Terrilville dont vous avez tant entendu faire l'article,
riposta à son tour Ronica.
Vous n'arrivez pas à reconnaître que c'est la capacité à dominer le passé qui nous a permis de survivre ici. C'est ce qu'il faut que vous trouviez en vous-même, compagne, si vous espérez vous intégrer à nous. Maintenant, allez-vous regarder ces pages, oui ou non?
Ronica la vit se dresser sur ses ergots. Elle aurait voulu aborder Séri en amie, en alliée, mais la compagne paraissait considérer toutes les femmes comme des rivales ou des espionnes. Alors, droite et froide, Ronica attendit la réponse. Elle observait l'autre avec un œil de marchandeur. Elle la vit darder un regard vers les registres ouverts sur la table, puis vers elle. Séri avait envie de savoir ce qu'il contenait, mais elle ne voulait pas avoir l'air de céder. Ronica lui laissa un peu de temps, puis, devant le silence de la compagne, elle décida de risquer le tout pour le tout.
« Très bien. Je constate que cela ne vous intéresse pas. J'ai cru que vous souhaiteriez voir ce que j'ai découvert avant que j'emporte ces registres au conseil. Si vous ne voulez pas m'écouter, je suis sûr qu'ils m'écouteront. »
D'un pas ferme, elle se dirigea vers le bureau. Après avoir refermé l'épais registre, elle le fourra sous son bras. Elle prit son temps pour quitter la pièce en espérant que Séri la rappellerait. Elle traversa lentement le couloir, espérant toujours, mais elle entendit la porte du bureau se refermer sèchement. C'était inutile. Avec un soupir, elle se mit à gravir l'escalier vers la chambre de Davad. Elle s'arrêta en s'apercevant qu'on frappait à la porte, puis s'approcha vivement de la rampe et baissa les yeux vers l'entrée. Une servante ouvrit la porte et esquissait un salut poli quand le jeune marchand entra en la bousculant.
« J'ai des nouvelles pour la compagne Séri. Où est-elle ? »
demanda Rod Cairn.
« Je vais la prévenir que vous êtes... »
commença la servante, mais Rod secoua la tête avec impatience.
« C'est urgent. Un oiseau est arrivé du désert des pluies. » Elle est dans le cabinet? Je connais le chemin.
Sans laisser le temps à la domestique de répondre, il passa devant elle. Ses bottes résonnaient sur les dalles et sa cape flottait derrière lui tandis qu'il traversait le vestibule, la démarche arrogante. La servante trotta sur ses talons en continuant ses vaines protestations. Oronika le suivit des yeux et se demanda si elle aurait le courage de descendre pour écouter à la porte.
« Comment osez-vous faire irruption de la sorte ?»
dit Ceri en se relevant du foyer où elle tisonnait le feu. Elle déchargeait toute la colère et le dépit destinés à la marchande. Puis, surprenant l'étincelle dans les yeux de Rodkern, elle recula d'un pas vers l'âtre.
« Je vous demande pardon, compagne. J'ai eu la sottise de croire que des nouvelles du désert des pluies mériteraient votre attention immédiate. »
Entre le pouce et l'index, il tenait un petit cylindre en cuivre comme ceux que portaient les oiseaux. Tandis qu'elle le fixait, les yeux écarquillés, il osa s'incliner avec raideur.
« J'attendrai, bien sûr, votre bon gré. »
Il se tourna vers la porte où la servante se tenait toujours bouche bée à espionner.
« Fermez cette porte !»
ordonna-t-elle hargneusement à la domestique. Son cœur cognait dans sa poitrine. Les gardes du gouverneur n'avaient pris que 5 oiseaux des pigeonniers de Davad la nuit où elle l'avait envoyé au désert des pluies. Ils ne les auraient pas utilisés sans nécessité. C'était le premier message qui leur était parvenu depuis qu'ils avaient appris l'arrivée du gouverneur au désert des pluies et sa mise en lieu sûr. Elle avait alors senti la réaction ambiguë des marchands des pluies à sa requête. Le gouverneur les avait-il influencés? Allait-elle être accusée de trahison? Qui y avait-il dans ce cylindre et qui d'autre en avait pris connaissance? Elle tâcha de composer sa physionomie, mais l'expression d'amusement cruel sur le visage de cet homme brun bien découplé lui fit craindre le pire. Mieux valait d'abord caresser son poil hérissé. Il lui faisait penser à un chien de garde sauvage, aussi prompt à se retourner contre son maître qu'à le protéger. Si seulement elle n'avait pas eu tant besoin de lui.
« Vous avez raison, bien sûr, marchand Cairn. Ces nouvelles ne souffrent aucun délai. En vérité, j'ai été harcelé par des soucis domestiques ce matin. Les servantes n'ont pas cessé de me déranger dans mon travail. Je vous en prie, entrez, réchauffez-vous. »
Elle alla même jusqu'à lui accorder une gracieuse inclination de la tête, bien que naturellement elle soit d'un rang supérieur. Rhode refit un salut profond et qu'elle devina ironique.
« Certainement, compagne. Je comprends combien cela peut être irritant, surtout quand un fardeau si lourd pèse sur vos frôles épaules. »
C'était là, une inflexion dans sa voix, le choix des mots.
« Le message ?»
s'enquit-elle. Il s'avança et s'inclina une nouvelle fois en lui présentant le cylindre. La cire du cachet paraissait intacte, mais rien n'aurait empêché Cairn de lire le message, puis de receler le cylindre. Inutile de s'inquiéter. Elle brisa le sceau, dévissa le couvercle et fit tomber le petit rouleau de parchemin dans sa main. Avec un calme qu'elle était loin de ressentir, elle s'assit au bureau et se pencha vers la lampe en déroulant le message. Les mots étaient brefs. Et leur brièveté même la mit au supplice. Il y avait eu un fort tremblement de terre. Le gouverneur et sa compagne étaient portés disparus, peut-être tués dans l'éboulement. Elle lut et relut le billet, regrettant qu'il ne contienne pas davantage d'informations. Y avait-il un espoir qu'il en ait réchappé? Qu'en était-il de ses ambitions si le gouverneur était mort? Aussitôt après, elle se demanda si le message n'était pas une supercherie, dont les motifs étaient trop complexes à démêler. Elle gardait les yeux rivés aux lettres qui se brouillaient.
« Tenez, buvez, on dirait que vous en avez besoin. »
C'était de l'eau de vie dans un petit verre. Elle n'avait même pas remarqué que Rhode avait pris le flacon et l'avait servi, mais elle accepta avec reconnaissance. Elle avala une gorgée et sentit la chaleur de l'alcool la détendre. Elle ne protesta pas quand il ramassa le billet et le lut. Sans le regarder, elle parvint à articuler. « Les autres seront-ils au courant ?»
Rhode s'assit avec désinvolture au coin du bureau. « Il y a beaucoup de marchands dans cette ville qui gardent des liens étroits avec leurs parents du désert des pluies. Et il y a d'autres oiseaux en chemin avec les mêmes nouvelles. Comptez là-dessus. »
Elle dut lever les yeux pour le voir sourire. « Que vais-je faire ? » s'entendit-elle demander, puis elle se maudit. Avec cette unique question, elle s'en remettait entièrement à lui.
« Rien, » répondit-il. « Rien, pour le moment. »
Ronica ouvrit la porte de la chambre de Davad. Ses mules étaient encore humides. La solide porte du cabinet de travail avait trop bien étouffé la conversation entre la compagne et son visiteur, et sa sortie dans le jardin avait été infructueuse. Les fenêtres du bureau étaient bien fermées. Ronica embrassa du regard la pièce en soupirant. Elle aurait tant voulu être chez elle. Peut-être était-elle plus en sécurité ici, mais sa maison, aussi dévastée qu'elle soit, lui manquait. Elle se sentait une intruse ici. Elle trouva Rack en train de frotter le sol, apparemment décidé à effacer toute trace de Davad. Ronica referma sans bruit la porte derrière elle.
« Je sais que tu ne supportes pas d'être ici, dans la maison de Davad, au milieu de ses affaires. Tu n'es pas obligé de rester, tu sais, » dit-elle avec douceur. « Je suis tout à fait capable de m'occuper de moi. Tu ne me dois rien. Tu peux aller ton chemin, Rack, sans trop craindre d'être reprise comme esclave en fuite. Naturellement, si tu veux demeurer avec moi, j'en serai ravi, ou, si tu le souhaites, je pourrais te donner une lettre avec des indications pour te rendre à la ferme des âtres. Tu pourrais t'y installer. Je suis sûr que ma vieille nounou t'accueillera volontiers, et elle sera probablement enchantée de ta compagnie. »
Rack lâcha son chiffon dans le seau et se remit debout avec raideur.
« Je n'abandonnerai pas la seule personne qui m'ait témoigné de la bonté à Terrilleville, » déclara-t-elle. « Peut-être pouvez-vous prendre soin de vous-même, mais vous avez quand même besoin de moi. Je me moque complètement de la mémoire de Davad Restart. Qu'importe qu'il ait été un traître, quand je sais, moi, qu'il était un assassin. Mais je ne veux pas vous voir diffamé simplement à cause des liens que vous aviez avec lui. D'ailleurs, j'ai des nouvelles pour vous. »
« Merci, » dit Ronica avec raideur.
Davad avait été un vieil ami de la famille, et elle avait toujours reconnu son côté impitoyable. Pourtant, Davad était-il entièrement responsable de la mort de l'enfant de Rack? Il est vrai, l'argent de Davad les avait achetés, et il était copropriétaire du transport d'esclaves. Mais il n'était pas là quand le garçon était mort dans la cale du navire, terrassé par la chaleur, l'eau croupie et le manque de nourriture. Néanmoins, c'était lui qui avait profité du commerce d'esclaves, alors peut-être était-il responsable. Elle se sentait mal à l'aise. Qu'en était-il alors de la vivacia et des esclaves qui constituaient sa cargaison? Elle pouvait rejeter la faute sur son gendre. Le navire appartenait à Kefria et sa fille avait laissé son mari Kyle en user à sa guise. Mais Ronica avait-elle vraiment résisté? Elle s'y était opposée, mais qui sait?
Si elle s'était montrée plus intransigeante...
« Vous voulez entendre mes nouvelles ?»
demanda Rack. Ronica émergea en sursautant de sa rêverie.
« Certainement. »
Elle s'approcha du foyer et inspecta la bouilloire sur la plaque.
« On boit un peu de tisane ?»« Il n'y en a presque plus, »
prévient Rack. Ronica haussa les épaules.
« Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. » À quoi bon la laisser s'éventer par crainte d'en manquer?
Elle saisit la petite boîte de tisane et en secoua quelques feuilles dans le pot. Elle prenait leur repas à la table de série, mais ici, dans les chambres, Ronica aimait bien avoir sa propre théière. Rack avait subtilisé avec désinvolture de la cuisine de Davad, tasses, soucoupes et autres menus ustensiles. Elle les disposa sur la table.
« Je suis sortie ce matin. » Je suis allé sur les quais discrètement, bien sûr, mais il ne s'y passe pas grand-chose. Les petits navires qui parviennent à entrer déchargent et rechargent vite, avec des hommes armés qui surveillent tout le temps. Il y avait un seul nouveau marchand, probablement plusieurs familles qui se sont associées dans l'entreprise. La cargaison paraissait principalement constituée de vivres. Deux autres navires m'ont paru appartenir à des premiers marchands, mais je ne me suis pas suffisamment approché pour en être sûr. La vive nef Ophélie mouille dans le port, mais à l'ancre, pas à marée au quai. Il y avait des hommes armés sur le pont. J'ai quitté le port
Ensuite, je suis allé sur la plage, comme vous l'aviez suggéré, où les pêcheurs tirent au sec leur barque. Là, c'était plus animé, bien qu'il y eût moins de bateaux que d'habitude. 5 ou 6 canots, des pêcheurs qui triaient leurs prises et ramandaient leurs filets. Je leur ai proposé de travailler en échange d'un peu de poisson, mais ils m'ont accueilli froidement. Pas impoli, remarquez, mais distant, comme si je pouvais leur attirer des ennuis ou les voler. Ils n'arrêtaient pas de regarder derrière moi, comme s'ils pensaient que je faisais de la diversion au profit d'un comparse mal intentionné. Mais au bout d'un moment, ils ont bien vu que j'étais seul, et certains m'ont pris en pitié. Ils m'ont tendu 2 petits carlets et ont un peu bavardé avec moi.
« Qui t'a offert les carlets ?»«
Une femme du nom de Heck. C'est son père qui lui a dit de les donner, et quand quelqu'un a apparu sur le point de protester, il a dit
« Faut bien manger, ange !»
Le nom du pêcheur généreux, c'est Kelter,
un costaud avec un ventre comme une barrique, une barbe rousse et des poils roux sur les bras, mais pas très chevelu.
« Kelter !» Ronica fouilla dans sa mémoire. « Pelé Kelter, est-ce qu'on ne l'a pas appelé Pelé ?»
Rack acquiesça d'un signe de tête.
« Mais je croyais que c'était pour le taquiner, je ne savais pas que c'était son nom. »
Ronica fronça les sourcils. La bouilloire chantait et la vapeur s'échappait du bec. Elle la souleva et versa l'eau dans la théière.
« Pelé Kelter, j'ai entendu ce nom quelque part, mais je n'en sais pas plus sur lui. D'après ce que j'ai vu, c'est notre homme. Je ne lui en ai pas parlé, bien sûr. Je crois qu'il faut y aller doucement et prudemment. Mais si vous cherchez un homme qui puisse représenter les familles de 3 navires, je crois que c'est le bon. »
« Bien. »
Le ton de Ronica manifestait sa satisfaction.
« Le conseil se réunit ce soir. J'ai l'intention de divulguer les informations dont je dispose et d'insister pour qu'on rétablisse l'union avec le reste des habitants de la ville. Je ne sais pas si je réussirai. C'est tellement décourageant de constater qu'ils sont si peu nombreux à avoir agi. Mais j'essaierai. »
Le silence se prolongea quelques minutes. Ronica sirotait sa tisane.
« Et s'il ne vous écoute pas, alors vous renoncerez ?»
demanda Rack.
« Je ne peux pas, » répondit Ronica simplement. Puis elle eut un petit rire amer. « Car si je renonce, je n'aurai plus rien à faire. Rack, c'est le seul moyen que j'ai d'aider ma famille. Si je puis être le temps qui pique Terrilville pour la pousser à agir, alors qu'Efria et les enfants pourront rentrer en toute sécurité. Au pire, je serai peut-être en mesure de leur envoyer des nouvelles ou d'en recevoir. Les choses étant ce qu'elles sont, avec les bagarres sporadiques dans les rues et mes voisins qui se méfient les uns des autres, sans compter qu'on m'accuse de trahison, leur retour est impossible. Et si par miracle, Althea et Brachen arrivent à ramener Vivacia, alors il leur faudra un foyer pour les accueillir. J'ai l'impression d'être une jongleuse, Rack, avec toutes ces massues qui me pleuvent dessus. Je dois en attraper le plus possible et essayer de les relancer. Si je n'en suis pas capable, c'est que je ne suis qu'une vieille vivant au jour le jour, à attendre la fin. C'est le seul espoir que j'ai de reprendre ma vie en main. »
Elle reposa sa tasse qui tinta doucement contre la soucoupe.
« Regarde-moi, » poursuivit-elle à mi-voix, « je n'ai même pas une tasse à moi. Les membres de ma famille, morts, aussi loin que je ne sais rien d'eux, tout ce que je considérais comme allant de soi m'a été enlevé. Rien dans ma vie n'est comme je m'y attendais. On n'est pas fait pour vivre ainsi. »
Sous le regard de Rack, Ronica laissa sa phrase en suspens. Elle se rappela subitement à qui elle s'adressait. Elle prononça les derniers mots sans réfléchir.
« Ton mari a été vendu avant toi et envoyé en Calcède. As-tu jamais songé à le rechercher ?»
Rack prit sa tasse au creux de ses mains en baissant les yeux. Ses cils se mouillèrent, mais les larmes ne coulèrent pas. Durant un long moment, Ronica contempla la raie droite et pâle qui séparait les cheveux bruns.
« Je suis désolée, »
commença-t-elle.
« Non, »
dit Rack d'une voix douce mais ferme.
« Non, je ne le rechercherai jamais.
car j'aime à penser qu'il a trouvé un bon maître qui le traite bien grâce à ses talents de scribe. Je peux espérer qu'il croit son fils et sa femme sains et saufs quelque part. Mais si j'allais en Chalcède avec cette marque sur ma figure, on aurait au fait de me reprendre comme esclave fugitive. Je redeviendrais une chose, et même si je n'étais pas reprise, que je le retrouve en vie, il faudrait que je lui dise comment est mort notre fils, comment il est mort et pourquoi moi j'ai survécu. Comment pourrais-je le lui expliquer? J'ai beau essayer d'imaginer, ça ne donne jamais rien de bon. Si vous allez jusqu'au bout, Ronica, ça se termine toujours dans l'amertume. Non. Aussi sombre que soit la situation maintenant, c'est quand même la meilleure conclusion que je puisse espérer.
« Je suis désolé, » répéta piteusement Ronica. Si elle avait eu de l'argent, si elle avait eu un navire, elle aurait pu envoyer quelqu'un en Chalcède pour rechercher le mari de Rak, le racheter et le ramener. Alors, eh bien, ils pourraient vivre tous deux en sachant leur fils mort. Mais il y aurait peut-être d'autres enfants. Ronica le savait. Éphron et elle avaient perdu leur fils lors de la peste sanguine, mais après, Althea était venue au monde. Elle ne dit rien mais se fit une promesse et adressa un vœu à Sa. Si la chance tournait en sa faveur, elle ferait son possible pour changer aussi le sort de Rak. C'était bien le moins qu'elle puisse faire pour cette femme qui était à ses côtés depuis si longtemps. D'abord, elle devait reprendre en main son propre sort. Il était temps qu'elle assume sa tâche périlleuse au lieu de laisser les autres agir à sa place.
« Je ne fais aucun progrès avec Cérille, » dit-elle brusquement. « C'est le moment ou jamais de faire fond sur ce que je sais, quoi que décide le conseil ce soir. Demain très tôt, j'irai avec toi voir les pêcheurs sur la plage. Il faudra les attraper avant qu'ils ne partent à la pêche. » Je m'entretiendrai avec Pelekelter et lui demanderai de parler aux familles de trois navires. Je leur dirai qu'il est temps non seulement de faire la paix, mais de proclamer l'autonomie de Terrilville. Nous aurons besoin de tout le monde, pas seulement des premiers marchands. Les immigrants de trois navires, même les nouveaux marchands qu'on peut convaincre de vivre selon nos anciennes coutumes. Pas d'esclavage. Tous doivent participer à la reconstruction de la nouvelle Terrilville.
Elle marqua une pause pour réfléchir.
Si seulement je connaissais, ne serait-ce qu'un seul nouveau marchand qui soit digne de confiance,
marmonna-t-elle pour elle-même.
Tous,
dit Rak à mi-voix.
Tous les nouveaux marchands?
Demanda Ronica interloquée.
Vous avez dit qu'ils doivent tous faire partie de cette nouvelle ville. Pourtant, il y a un groupe que vous avez oublié.
Ronica songea un moment.
Quand je parle de trois navires, j'entends tous les gens qui sont venus s'installer ici après que les marchands ont fondé la ville, tous ceux qui sont venus et ont adopté notre façon de vivre. Réfléchissez, Ronica. Vous ne nous voyez vraiment pas alors que nous sommes là?
Ronica ferma les yeux. En les rouvrant, elle croisa avec franchise le regard de Rak.
« J'ai honte. Tu as raison. Connais-tu quelqu'un qui pourrait représenter les esclaves ?»
Rak la dévisagea posément.
« Ne nous appelez pas esclaves. Esclaves, c'est ainsi qu'ils nous nommaient pour chercher à faire de nous ce que nous n'étions pas. Entre nous, nous nous appelons les tatoués. Cela exprime qu'ils ont marqué notre visage, mais que notre âme ne leur appartient pas. Vous avez un chef ?»
Pas exactement.
Quand Ambre était à Terrilville, elle nous a indiqué le moyen de nous tirer d'affaire tout seul. Dans chaque foyer, disait-elle, trouvez quelqu'un qui sera le détenteur d'informations. Tout renseignement utile, destiné à faciliter la fuite ou à ménager un peu de temps libre, par exemple une porte à la serrure cassée, ou l'endroit où le maître garde de l'argent dont on peut s'emparer discrètement, eh bien, ce renseignement est transmis au détenteur. Puis un autre, qui fait le marché ou la lessive, ou n'importe quoi qui l'amène en ville, entre en contact avec les tatoués de diverses maisons. Il transmet les informations et rapporte d'autres nouvelles. Ainsi, un tatoué sachant qu'un maître expédie une charrette de grains peut profiter de l'occasion pour envoyer des nouvelles à sa famille ou à ses amis qui travaillent sur cette ferme. ou voler de l'argent à un maître et le cacher dans une charrette de foin pour pouvoir s'échapper. Ambre nous a persuadés de ne pas compter sur un seul chef, mais d'en avoir plusieurs, comme les nœuds sur un filet de pêche. Un chef peut être capturé, torturé et nous trahir tous, mais si les dirigeants sont dispersés, c'est comme un filet. Quand on le coupe en deux, il y a encore beaucoup de nœuds dans chaque moitié.
Ambre a fait tout ça? Ambre, la fabricante de perles?
Sentit Ronica. Rack confirma d'un hochement de tête.
Pourquoi?
La Franchie haussa les épaules.
Certains disent qu'elle a été elle-même esclave, bien qu'elle n'ait pas de tatouage. Elle porte un anneau de liberté à l'oreille, vous savez. L'anneau que les esclaves affranchis de Calcède doivent acheter et arborer pour prouver qu'on leur a accordé la liberté. Je lui ai demandé une fois si elle avait acquis sa liberté ou si l'anneau avait appartenu à sa mère. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, elle a fini par dire que c'était un cadeau de son unique amour. Quand je lui ai demandé pourquoi elle nous aidait, elle a répliqué simplement qu'elle le devait, que pour des raisons personnelles, c'était important pour elle. Une fois, un homme s'est emporté contre elle. Il a dit que c'était bien facile pour elle de jouer à prendre des risques et de pousser à la rébellion. D'après lui, elle pouvait nous exposer à un grand danger et s'en sortir elle-même sans dommage. Son tatouage était peut-être effacé, mais pas les nôtres. Ambre l'a regardé dans les yeux et a répondu que oui, c'était vrai. Alors il a dit qu'il ne lui ferait pas confiance tant qu'elle n'aurait pas expliqué pourquoi elle faisait tout ça. C'était si bizarre. Elle s'est assise sur les talons, immobile et silencieuse pendant un bon moment, puis elle a ri et a déclaré « Je suis un prophète, j'ai été envoyé pour sauver le monde. »
Rack sourit pour elle-même. Il y eut un silence, Ronica la contemplait, consternée, puis l'esclave inclina la tête et dit d'une voix songeuse « Ce qui nous a fait rire. » On était tous rassemblés à un lavoir à lessiver du linge qui n'était pas à nous. Vous m'aviez envoyé en ville faire une course et je m'étais arrêté pour bavarder. C'était une belle journée ensoleillée, et à écouter ses discours, ses projets, on avait l'impression qu'il était vraiment possible de retrouver une vie à nous. Tout le monde a cru qu'elle plaisantait quand elle a parlé de sauver le monde, mais son rire... J'ai toujours pensé qu'elle avait ri parce qu'elle savait qu'elle ne risquait rien à nous dire la vérité. Car personne ne la croirait.
Ronica cheminait vers la salle du conseil des marchands. Elle était assez avertie pour ne pas attendre de la compagne Série qu'elle lui fournisse un moyen de transport. Elle avait quitté tôt la maison de Davad, elle avait une longue marche à faire et elle voulait arriver parmi les premiers. Elle espérait parler en particulier aux marchands à mesure de leur arrivée et les sonder sur les éventuelles décisions à prendre. Le trajet n'était ni facile ni sûr. Rack avait voulu l'accompagner, mais Ronica avait insisté pour qu'elle restât. À quoi bon courir des risques toutes les deux? L'esclave affranchie ne serait pas admise à la réunion du conseil, et Ronica ne voulait pas qu'elle attende dehors à la nuit tombante. Elle espérait trouver une voiture pour entrer quand la séance serait achevée. Le vent froid d'automne la tiraillait par ses vêtements tandis que la situation qu'elle découvrit au cours de sa marche lui tiraillait le cœur. Son chemin ne la conduisait pas au centre de la ville car la salle du conseil avait été construite sur une petite hauteur qui surplombait Terrilleville. Elle passa devant de nombreuses propriétés de marchands. Les portails et les larges allées carrossables qui menaient aux demeures étaient à présent barricadés et souvent gardés par des hommes en armes. Aucune maison n'était à l'abri des bandes de vagabonds, de voleurs et de pillards. Les gardes la suivaient des yeux d'un air hostile. Personne ne la salua seulement d'un signe de tête.
Ronica arriva la première pour la réunion du conseil. La salle avait subi autant de dégâts que la ville elle-même. Le vieux bâtiment était davantage qu'un lieu de réunion. C'était le cœur de l'unité des marchands, un symbole. Les murs de pierre étaient à l'épreuve des flammes, mais on avait réussi à mettre le feu au toit. Ronica resta un moment à le contempler, consternée. Puis elle rassembla son courage pour affronter ce qui l'attendait et gravit les marches. Les portes avaient été défoncées. Elle scruta l'intérieur avec précaution. Seule une partie de la toiture avait brûlé, mais
la salle empestait la fumée et l'humidité. Une pâle lumière de fin d'après-midi filtrait par la brèche du toit et éclairait la salle vide. Ronica poussa la porte au loquet cassé et s'avança prudemment. Il faisait froid. Les décorations moisies du bal d'été pendaient encore sur les murs et frémissaient dans le courant d'air. Les guirlandes sur les voûtes des portes n'étaient plus que des branchages dénudés dont les feuilles pourrissaient sur le sol. Tables, chaises et estrades étaient toujours en place. Il restait même quelques plats épars qui avaient échappé au pillage. Des bouquets achevaient de moisir à côté des vases brisés. Ronica regardait autour d'elle avec une consternation croissante. Où étaient passés ceux qui avaient pour tâche de préparer la salle pour les réunions? Qu'étaient devenus les marchands désignés pour l'entretenir? Avaient-ils tous rejeté leurs responsabilités pour ne se soucier que de leur petite personne? Elle attendit un moment dans la salle froide et obscure. Puis la pagaille, le désordre environnant, finirent par entamer son calme. Dans sa jeunesse, Ephron et elle s'étaient occupés de l'entretien de la salle pendant un trimestre. Presque tous les jeunes couples de marchands faisaient de même. Avec un singulier pincement de cœur, elle se rappela que Davad et Dorille étaient de service avec eux. Ils venaient en avance aux réunions du conseil pour alimenter les lampes, allumer le feu et restaient après pour balayer et essuyer les bancs de bois avec des chiffons imprégnés d'huile. Alors c'était une besogne simple et agréable accomplie avec d'autres jeunes couples. Le souvenir de cette époque fut la pierre de touche qui mit son courage à l'épreuve. Elle trouva balais, chandelles et lampes à huile à leur emplacement habituel. Elle fut un peu rassérénée en découvrant que le débarras n'avait pas été pillé, ce qui signifiait que les vols avaient été commis par des esclaves ou des nouveaux marchands, puisque toutes les familles de marchands savaient où étaient entreposés les ustensiles de ménage. Il lui était impossible de remettre toute la salle en état, mais elle pouvait commencer à la ranger un peu. D'abord, il lui fallait de la lumière. Elle grimpa sur une chaise pour remplir et allumer les appliques. Leurs flammes vacillèrent dans le courant d'air et éclairèrent les feuilles et la terre tombée avec des débris du toit calciné. Elle rassembla les plats dans une cuvette qu'elle mit de côté, puis elle retira les bannières humides, les guirlandes dénudées qu'elle roula en tas dans un coin. Le balai qu'elle prit ensuite paraissait une arme bien dérisoire pour venir à bout des monceaux de détritus qui jonchaient le sol, mais elle se mit à l'œuvre de bon cœur. Cela lui faisait du bien de s'atteler à un travail physique. Elle pouvait au moins voir les résultats immédiats de ses efforts et de sa volonté. Elle se surprit à fredonner la chanson du vieux balai en poussant en cadence les détritus. Elle avait l'impression d'entendre la douce voix d'alto de Dorille reprendre le refrain monotone. Le crissement de son balai couvrit le bruit des pas. Elle s'aperçut de la présence des autres quand deux femmes la rejoignirent avec leur balai. Surprise, elle s'arrêta pour regarder autour d'elle. À l'entrée, des marchands se serraient les uns contre les autres. Quelques-uns la contemplaient avec des yeux caves, les épaules voûtées, tandis que d'autres passaient devant eux. Deux hommes entrèrent les bras chargés de bois pour le feu. Des jeunes gens se groupèrent pour emporter hors de la salle les bannières qui sentaient le moisi. Soudain, tel un amas de débris qui cède à la force du courant, les gens qui étaient à l'entrée se déversèrent à l'intérieur. Certains se mirent à déplacer bancs et chaises pour les installer en vue de la réunion du conseil. On alluma des lampes supplémentaires et le brouhaha des conversations commença à remplir la salle. Un premier rire résonna et le bourdonnement s'interrompit un instant comme si tout le monde était surpris par ce bruit inconnu. Puis les bavardages reprirent et il sembla à Ronica que les gens s'animaient. Elle regarda voisins et amis qui l'entouraient. Ceux qui se rassemblaient ici étaient les descendants des colons qui avaient débarqué jadis sur les rivages maudits avec guère plus que leurs octrois de terre et la charte du gouverneur Esclépius. Bannis, hors la loi, fils cadets, c'étaient leurs ancêtres. Sans grand espoir de faire ou refaire fortune à Jamelia, ils étaient venus tenter leur chance sur les rivages maudits, sinistrement nommés. Leur première colonie avait échoué, condamnée par l'étrangeté inquiétante que le fleuve du désert des pluies paraissait charrier dans ses eaux. Ils avaient progressé plus avant, s'éloignant de ce qui leur avait paru une voie navigable pleine de promesses, pour s'installer ici, sur la côte, dans la baie de Terrilleville. Certains parmi leurs parents étaient restés. Ils avaient bravé l'étrangeté de la vie le long de ce fleuve des pluies qui marquait de son empreinte ce qui peuplait ses rives, mais ils n'étaient pas de vrais marchands qui oublia qu'ils appartenaient tous à la même lignée, qu'ils étaient tous liés par la même charte. Pour la première fois depuis la nuit des émeutes, Ronica entrevit cette unité. Les visages paraissaient plus las, plus âgés et soucieux. D'aucuns portaient leurs robes de marchands aux couleurs de leur famille, tandis que les autres, aussi nombreux, étaient vêtus de façon ordinaire. Manifestement, elle n'était pas la seule à avoir perdu ses biens dans le pillage. À présent, ils s'affairaient à arranger la salle avec l'obstination et l'esprit pratique qui les caractérisaient. Quoi qu'il advienne, c'étaient des gens qui avaient dominé des circonstances adverses et qui les domineraient encore. Elle reprit espoir tout en reconnaissant tristement qu'ils étaient bien peu à la saluer. On marmonnait de vagues bonjours et les menus propos que tiennent des gens occupés à la même tâche, mais personne ne cherchait à engager sérieusement la conversation avec elle. Plus décourageant encore, personne ne s'enquit de Malta ni de Kefria. Elle n'avait pas escompté qu'on pleurât avec elle la mort de Davad, mais elle constatait à présent que les événements qui s'étaient déroulés cette nuit-là semblaient être le sujet interdit. Enfin, la salle remise sommairement en état, les membres du conseil commencèrent à prendre place sur l'estrade, tandis que les familles occupaient chaises et bancs. Ronica s'assit au troisième rang. Elle ne se départit pas de son impassibilité, bien qu'elle soit blessée de voir que les places à côté d'elle restaient vides. En regardant derrière elle, elle fut effrayée par le nombre de sièges vacants. Où étaient-ils tous passés? Morts? En fuite? Ou trop apeurés pour sortir? Elle promena le regard sur les membres du conseil en robe blanche et remarqua avec consternation qu'on avait rajouté un siège sur l'estrade. Pire, au lieu d'appeler les marchands à se préparer pour l'ouverture de la séance, on attendait son occupant. Les murmures se fondirent en un grand silence et Ronica tourna la tête. La compagne Cérille faisait son entrée. Le marchand Drure l'escortait mais ne lui donnait pas le bras. Elle le précédait d'un demi-pas. Elle portait une robe bleue pan, constellée de perles, et une cape écarlate bordée de fourrure blanche qui balayait la poussière derrière elle. Elle avait relevé haut ses cheveux, attachés par des épingles garnies de perles. Des perles, encore, autour du cou et aux oreilles, luisaient d'un chaud reflet nacré. Cette opulence affichée avec une telle désinvolture scandalisa Ronica. La compagne ignorait-elle donc que certains dans l'assemblée avaient quasiment tout perdu? Pourquoi exhibait-elle ainsi ses trésors? Cérille entendait le sang battre à ses oreilles tandis qu'elle remontait posément l'allée qui menait à l'estrade au centre de la salle détériorée. Il y flottait une terrible odeur de pluie et de moisie. Il faisait froid. Elle se félicita d'avoir revêtu la cape choisie dans la garde-robe de Keki. Le menton haut, un sourire plaqué sur le visage, elle représentait le véritable gouvernement de Terrilleville. Elle ferait respecter le gouvernorat de Jamelia avec plus de dignité et de noblesse que Kosgo ne l'avait jamais fait. Son calme leur donnerait du courage, tandis que la somptuosité de sa mise leur rappellerait l'éminence de sa position. C'était une leçon qu'elle avait retenue du vieux gouverneur. Chaque fois qu'il se rendait à une séance de négociation délicate, il se présentait en grand apparat, l'allure sereine. Le faste rassure. D'un petit geste, elle fit arrêter Drure au bas des marches. Seule, elle gravit les degrés de l'estrade. Elle s'avança vers le siège qu'ils avaient laissé libre pour elle. Elle fut légèrement contrariée qu'il n'ait pas été surélevé, mais il faudrait s'en contenter. Elle resta debout en silence près de son fauteuil jusqu'à ce que les hommes sentent son déplaisir. Elle attendit qu'ils se soient tous levés avant de s'asseoir elle-même, puis elle adressa à la ronde un petit hochement de tête signifiant par là au public, qui n'avait pourtant pas bougé à son entrée, qu'il pouvait se donner relâche. Elle parla tout bas au marchand d'Huiqueur, le chef du conseil.
« Vous pouvez commencer. »
Elle resta assise durant la brève prière par laquelle il suppliait ça de leur accorder la sagesse en ces temps incertains. Suivit un silence. Céry le laissa se prolonger. Elle voulait être certaine d'avoir toute leur attention avant de s'adresser à eux. Mais, à sa surprise, le marchand d'Huiqueur s'éclaircit la gorge. Il embrassa du regard l'assemblée et secoua lentement la tête.
« Je ne sais trop par quoi commencer, »
dit-il avec une brusque franchise.
« Nous sommes confrontés à de tels désordres et dissensions, à tant de besoins. Depuis que la compagne Céry a donné son accord pour cette réunion et que nous l'avons annoncée, j'ai été submergé de propositions concernant des questions à régler. Notre ville, notre terrible ville. »
Ici, sa voix se brisa. Il se racla à nouveau la gorge et reprit son aplomb.
Jamais notre ville n'a été aussi sérieusement assaillie à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Notre seule solution, c'est de rester unis, comme nous l'avons toujours été, comme l'étaient nos ancêtres avant nous. En gardant cela à l'esprit, les membres du Conseil se sont réunis en privé et ont adopté quelques mesures préliminaires qu'ils souhaiteraient promulguer. Nous croyons que ces mesures serviront l'intérêt général. Nous les présentons à votre approbation.
Céry réprima un froncement de sourcils. Elle n'avait pas été avertie de tout ceci. Ils avaient établi un plan de relèvement sans elle. Elle eut peine à tenir sa langue et à attendre son heure.
À deux reprises déjà dans notre histoire, nous avons imposé un moratoire sur les créances et les saisies. Puisque nous l'avons institué lors du grand incendie qui a laissé tant de familles sans abri et durant la sécheresse de 2 ans, il est de circonstance aujourd'hui. Les intérêts des créances et contrats continueront à courir, mais aucun marchand ne pourra confisquer les biens d'un autre marchand, ni exiger le recouvrement d'une dette jusqu'à la levée du moratoire par le Conseil.
Céry observait les visages. Il y eut des murmures dans la salle, mais personne n'éleva d'objection. Elle en fut surprise. Elle avait cru que le profit opportuniste était derrière la plupart des pillages. Les marchands s'en écartaient-ils maintenant?
Deuxièmement, toutes les familles marchandes doubleront leurs jours de service communal, sans possibilité de s'y soustraire en rachetant leurs obligations. Tout marchand, tout membre de famille marchande âgé de plus de 15 ans, devront accomplir personnellement leur service. Les tâches à effectuer seront tirées au sort, mais nous porterons d'abord nos efforts sur le port, les quais et les rues, afin que le commerce puisse se rétablir.
Nouveau silence. Bref. Là encore, il n'y eut pas d'objection. L'attention de Céry fut attirée par le léger mouvement d'un membre du conseil. Elle jeta un rapide coup d'œil sur le rouleau de papier qu'il avait devant lui, où il avait noté simplement « approuvé à l'unanimité ». Ce silence était donc une approbation? Elle promena un regard incrédule sur l'assistance. Il se passait quelque chose ici, dans cette salle. Ces gens se relevaient d'eux-mêmes et en s'unissant trouvaient la force de prendre un nouveau départ, ce qui aurait été réconfortant s'ils n'avaient pas été en train d'agir sans elle. Tandis que ses yeux erraient dans l'assemblée, elle remarqua que certains s'étaient redressés. Les parents se tenaient la main et tenaient la main de leurs enfants. Les jeunes gens et quelques femmes affichaient un air de détermination. Son regard s'arrêta sur Ronica Westrit. Elle était assise dans les premiers rangs, vêtue de sa robe usée et du châle de son ami disparu. Les yeux perçants étaient rivés sur ses rilles et étincelaient de satisfaction. Le marchand d'Huiqueur continua son discours. Il demanda des jeunes volontaires pour renforcer la garde, énumérant les limites de la zone à contrôler. À l'intérieur de ce périmètre, les commerçants étaient incités à reprendre le cours normal de leurs affaires, de façon que le négoce puisse repartir. Céry commençait à discerner leur méthode. Ils allaient rétablir l'ordre dans une partie de la ville, tenter d'y ramener la vie en espérant que la régénération fasse tache d'huile. Quand il eut achevé, elle crut qu'il allait s'en remettre à son avis, mais une 20aine de marchands se levèrent en silence, attendant qu'on leur donne la parole. Ronica Westrit était parmi eux. Céry surprit tout le monde, y compris elle-même, en se redressant. Aussitôt, tous les regards convergèrent vers elle. Tout ce qu'elle avait prévu de dire s'était envolé. Elle ne savait qu'une chose.
Il fallait que, d'une façon ou d'une autre, elle réaffirme le pouvoir du gouverneur et par là même le sien. Elle devait empêcher Ronica Vestrit de parler.
Elle avait cru s'assurer le silence de cette femme plus tôt, au cours d'un entretien avec Rhode Cairn.
En voyant comment le système de Terrilville avait recommencé à fonctionner, elle ne comptait plus guère sur Rhode.
Le pouvoir que les gens s'arrogeaient ici l'étonnait. Cairn ne pèserait pas lourd si Ronica parvenait à se faire écouter. Elle n'attendit pas que le marchand d'huiker lui donne la parole. Elle avait été stupide de le laisser ouvrir la séance.
Elle aurait dû prendre les rênes dès le début.
Elle regardait à présent autour d'elle, hochait la tête, souriait jusqu'à ce que les gens debout se rassoient. Elle s'éclaircit la gorge.
« Aujourd'hui, c'est un beau jour pour Jamelia, »
déclara-t-elle.
« Terrilville a été qualifié joyau de la couronne du gouvernorat, et à juste titre. Au cœur de l'adversité, loin de sombrer dans l'anarchie et le désordre, les habitants de Terrilville se rassemblent parmi les ruines et défendent la civilisation dont ils sont issus. »
Suivit une longue harangue où elle chercha à faire vibrer des accents patriotiques. À un moment, elle se saisit du parchemin qui était posé devant le marchand d'huiker et le tint devant elle. Elle en fit l'éloge, disant que Jamelia était fondée elle aussi sur ce même sens de la responsabilité civique. Elle laissait son regard errer sur l'assemblée tandis qu'elle tentait de s'attribuer quelques mérites dans l'élaboration de ses mesures, mais en son fort intérieur, elle doutait d'abuser quiconque. Elle continua de pérorer. Elle se penchait vers eux, croisait leurs regards, s'exprimait avec ferveur, alors que son cœur ne cessait de trembler. Il n'avait besoin ni de gouverneur ni de gouvernorat. Il n'avait pas besoin d'elle. Et dès qu'il l'aurait compris, elle serait perdue. Tout le pouvoir qu'elle croyait avoir amassé se dissiperait. Elle ne serait plus qu'une femme sans ressources dans un pays étranger, le jouet du sort. Elle ne pouvait permettre que cela se produise. Elle commençait à avoir la gorge sèche. Sa voix se mit à chevrotter et elle chercha désespérément une conclusion. En respirant profondément, elle déclara
« Vous avez pris un départ courageux ce soir. » Maintenant la nuit descend sur notre ville, nous ne devons pas oublier que des nuages noirs nous menacent encore. Retournez dans la sécurité de vos foyers. Restez-y et attendez qu'on vous indique sur quoi doivent porter vos efforts. Au nom du gouverneur, votre chef, je vous félicite et vous remercie pour le courage que vous avez montré. En rentrant chez vous ce soir, pensez à lui. Sans les menaces qui pèsent sur lui, il serait ici en personne ce soir. Il vous adresse ses meilleurs vœux. »
Elle reprit haleine et se tourna vers le marchand d'huiker.
« Peut-être devriez-vous dire une prière finale d'action de grâce à ça avant que nous nous dispersions ?»
Il se leva, les sourcils froncés. Elle lui adressa un sourire d'encouragement et le vit perdre la bataille. Il se tourna vers l'assemblée des marchands et inspira avant de commencer.
« Conseil !» « Je voudrais parler avant que la séance soit ajournée. Je demande que la mort inique de Davad Restart soit examinée. »
C'était Ronica Vestrit. Le marchand d'huiker s'en étouffa. L'espace d'un instant, Ceri crut qu'elle avait perdu la partie. Mais Rhode Cairn se leva d'un mouvement fluide.
« Conseil !» Je soutiens que Ronica Vestrit n'a pas l'autorité pour s'exprimer ici. Elle n'est plus la marchande de la famille Vestrit, encore moins de celle de Restart. Qu'elle se rassoie. À moins que cette question ne soit soulevée par un marchand légitime, le conseil n'est pas tenu de l'examiner.
La vieille femme restait obstinément debout, deux taches rouges sur les pommettes. Elle maîtrisa sa colère et déclara d'une voix claire «
La marchande de la famille ne peut pas parler en notre nom. L'attentat dont nous avons été victimes l'a forcée à se cacher avec ses enfants. En conséquence, je réclame la parole. »
D'huiker réussit à reprendre son souffle.
« Ronica Vestrit, avez-vous une autorisation écrite de Kefria Vestrit pour parler en qualité de marchande de la famille ?»
Un silence. Alors
Non, président du conseil Duiker, je n'en ai pas.
Admit Ronica. Duiker parvint à contenir son soulagement.
Alors, conformément à nos lois, je crains que nous ne puissions vous entendre. Pour chaque famille, un seul marchand a droit de parole et de vote. Si vous obtenez cette procuration, dûment attestée, et que vous revenez à la prochaine réunion, alors peut-être pourrons-nous vous entendre.
Ronica se laissa retomber lentement sur son siège. Mais le répit de Séri fut de courte durée. D'autres marchands se levèrent, et Duiker leur donna la parole l'un après l'autre. Le premier demanda si le quai numéro 7 pourrait être réparé en priorité, car il offrait le meilleur amarrage pour les navires à fort tirant d'eau. D'autres agréèrent rapidement la demande, et des volontaires se proposèrent tour à tour pour se charger de la tâche. Les suggestions se succédèrent. Certaines se rapportaient aux affaires publiques, d'autres étaient d'ordre privé. Un marchand se leva pour offrir de la place dans son entrepôt à ceux qui voudraient bien l'aider à y effectuer de sommaires réparations et à le surveiller durant la nuit. Trois bénévoles se déclarèrent sans attendre. Un autre possédait des attelages de bœufs, mais n'avait plus de quoi les nourrir. Et il proposait leur travail en échange de leur nourriture pour les garder en vie. Lui aussi recueillit plusieurs offres. La soirée était fort avancée, mais les marchands ne manifestaient aucun désir de rentrer chez eux. Sous les yeux de Cérille, Terrilville se ressoudait. Ses espérances de pouvoir et d'influence s'éteignaient. Elle avait presque cessé d'écouter les débats quand un marchand à la mine sombre se leva et demanda
« Pourquoi nous tient-on dans l'ignorance de ce qui a déclenché ce désastre? Qu'est devenu le gouverneur? Savons-nous qui le menaçait? Avons-nous pris contact avec Jamelia pour nous expliquer ?»
Une autre voix s'éleva.
« Jamelia connaît-elle notre situation? A-t-elle proposé d'envoyer des navires et des hommes pour nous aider à chasser les Chalcédiens ?»
Toutes les têtes se tournèrent vers la compagne. Pire, le marchand Duiker lui adressa un petit signe pour l'inciter à répondre. Elle rassembla précipitamment ses idées et se leva.
« Pour raison de sécurité, on ne peut pas révéler grand-chose, »
commença-t-elle.
Il n'y a pas de moyen pratique d'envoyer des nouvelles à Jamelia sans risquer qu'elle soit interceptée. En outre, nous ne savons pas au juste à qui nous pouvons faire confiance ici. Pour le moment, il vaut mieux ne divulguer à personne le lieu de résidence du gouverneur, pas même à Jamelia.
Elle leur sourit chaleureusement, comme si elle ne doutait pas de leur compréhension.
« Je pose la question, »
poursuivit laborieusement le marchand.
Parce que hier, j'ai reçu un message par un oiseau qui venait de Trois-Nousses, m'avertissant que le paiement des denrées que j'ai expédiées là-bas serait différé. Il y a eu un tremblement de terre, un sérieux. Ils ignoraient encore l'étendue des dégâts quand ils m'ont envoyé l'oiseau, mais ils précisaient que le Kendry serait certainement retardé.
L'homme haussa une épaule osseuse.
« Est-on sûr que le gouverneur est sain et sauf ?»
Un instant, la langue de Séri n'eut plus de prise sur ses pensées. Alors, Rodkern se leva gracieusement pour réclamer la parole.
Marchand recteur, je crois que nous ne devrions pas spéculer sur ce sujet au risque de faire courir des bruits. S'il était arrivé quelque chose de fâcheux, nous aurions reçu des nouvelles. Pour le moment, je propose que nous ajournions toutes les questions concernant le gouverneur. Sa sécurité est tout de même plus importante que notre curiosité.
Il avait la particularité de se tenir debout avec une épaule légèrement plus haute que l'autre. Il se tourna en parlant, évoquant un peu le charme et l'arrogance d'un chat bien griffu. Ses paroles ne contenaient aucune menace, mais, d'une certaine façon, c'eût été le provoquer que de s'enquérir plus avant du gouverneur. Un petit frisson de malaise parut se propager autour de lui. Il prit son temps pour regagner sa place, comme s'il laissait l'assemblée méditer sur son intervention. Nul ne souleva plus la question du gouverneur. Quelques marchands se levèrent à leur tour pour aborder des affaires mineures, se proposant de veiller à l'éclairage des rues ou autres, mais on sentait que la réunion touchait à sa fin. Ceri était partagé entre la déception et le soulagement que ce soit terminé, quand un homme en robe bleue foncée se dressa tout au fond de la salle.
« Le fils de marchand Grag Ténira !»
annonça-t-il lui-même quand Dwicker hésita sur son nom.
« Et j'ai l'autorisation écrite et attestée de parler au nom de ma famille. Je parle au nom de Tommy Ténira. »
« Faites alors, »
admit Dwicker. Le fils de marchand hésita, prit une inspiration.
« Je propose que nous désignions trois marchands pour examiner la mort de Davad Restart et la succession de ses biens. Je déclare mon intérêt dans cette affaire car il y a de l'argent dû par la propriété à la famille Ténira. »
Rodkern se remit debout, trop vite cette fois.
« Cela vaut-il la peine que nous perdions notre temps ? »
demanda-t-il.
« Toutes les dettes sont suspendues pour le moment. Cela a été approuvé au début de la réunion. D'ailleurs, en quoi le recouvrement d'une dette influe-t-il sur la nature du décès du débiteur ?»
Grag Ténira ne parut pas démonté par le raisonnement.
« Un héritage n'est pas une dette, je crois. Si la propriété a été confisquée, alors nous devons renoncer à l'espoir de récupérer jamais notre dû. Mais si la propriété a un héritier, nous avons intérêt à le savoir et à veiller que la succession ait lieu avant qu'elle ne soit dépréciée. »
Dépréciée. Ce fut le mot qu'il employa, mais pillé se devinait dans son intonation. Ceri ne put maîtriser le rose qui lui monta aux joues. La bouche sèche, elle était incapable de parler. C'était bien pire qu'être ignoré. Il l'avait pratiquement accusé de vol.
Le marchand Dwicker ne sembla pas remarquer sa détresse. Il ne sembla même pas se rendre compte que c'était à elle de répondre. Il s'adossa à son siège et dit gravement
« Un groupe de trois marchands pour examiner la question, la requête paraît raisonnable, d'autant qu'un membre de la famille marchande a déjà exprimé sa préoccupation sur le sujet. Y a-t-il des volontaires sans lien avec l'affaire ?»
Et la question fut promptement réglée. Ceri ne reconnut même pas les noms retenus par Dwicker. Il y avait une jeune femme malfagotée qui tenait un enfant gigotant dans ses bras, un vieil homme à la face couturée de cicatrices qui s'appuyait sur une canne. Comment exercer une quelconque influence sur des gens pareils? Elle eut l'impression de rapetisser sur son siège alors qu'un sentiment d'échec et de honte la submergeait. La honte la confondit par son intensité et entraîna le désespoir dans son sillage. D'une façon ou d'une autre, tout se tenait. C'était le pouvoir que les hommes pouvaient prendre sur elle. Elle entrevit l'expression de Ronica Vestrit. La compassion qu'elle eut dans les yeux de la vieille dame l'horrifia. Était-elle tombée si bas que même ses ennemis qui la mettaient en pièces avaient pitié d'elle? Ses oreilles se mirent à tinter subitement et la salle s'obscurcit autour d'elle. Ronica était assise, menue et silencieuse. Il ferait pour Grag Ténira ce qu'il ne ferait pas pour elle. Ils allaient enquêter sur la mort de Davad. C'était cela l'important, se dit-elle. Elle fut tirée de ses pensées en remarquant la pâleur subite de la compagne. Allait-elle s'évanouir? D'une certaine façon, elle avait pitié d'elle. Elle était étrangère, prise dans la tourmente de cette guerre civile, sans espoir de s'en dégager. En outre, elle semblait prisonnière de son rôle de compagne. Ronica devinait qu'à une époque, Ceri avait été moins simple qu'elle n'en avait l'air, mais, pour une raison ou une autre, cette femme-là avait disparu. Il était tout de même difficile de plaindre quelqu'un obsédé à ce point par le pouvoir et prêt à tout pour le conserver. Elle observait la compagne qui se faisait toute petite et discrète, et elle remarqua à peine que la réunion était terminée. Le marchand Dwicker conclut avec une dernière prière à Sa, demandant au dieu de la force et le remerciant de leur avoir laissé la vie. Les voix qui firent écho à la sienne étaient plus fortes que dans la prière d'ouverture. C'était bon signe. Tout ce qui s'était passé ici ce soir avait été bon pour Terrilville. La compagne Ceri s'en alla au bras de Rodkern. Le grand et beau fils de marchand avait l'air furieux en l'escortant pour sortir de la salle. Plusieurs têtes se tournèrent pour les suivre des yeux. À les voir, on aurait presque dit un couple tout près de la dispute conjugale.
Ronica n'aima guère l'expression angoissée qui marquait le visage de la compagne. Cairn exerçait-il une quelconque contrainte sur elle? Elle n'eut pas l'impudence de se précipiter sur leurs talons pour leur demander de la prendre en voiture. Pourtant, elle aurait donné cher pour entendre ce qu'ils se disaient en chemin. Mais en s'enveloppant dans le châle de Dorille, elle songea avec effroi à la longue marche jusqu'à la maison de Davad. Dehors, c'était une froide nuit d'automne. La route serait rude, obscure et plus périlleuse que par le passé. Allons, on n'y pouvait rien. Plus tôt elle partirait, plus tôt elle serait arrivée. Dehors, une méchante petite brise lui cingla le visage. Les gens grimpaient dans les voitures et charrettes ou rentraient chez eux en groupe, éclairés de lanternes et armés de cannes. Elle n'avait pensé à apporter ni l'une ni l'autre. Se reprochant sa négligence, elle commença à descendre les marches. En bas, une silhouette sortit de l'ombre et lui effleura le bras. Elle eut un hoquet de surprise. « Je vous demande pardon !» s'empressa de dire Grag Ténira. « Je ne voulais pas vous faire peur. Je désirais simplement m'assurer que vous aviez un moyen sûr de rentrer chez vous. » Ronica eut un rire tremblant. « Je vous remercie de votre sollicitude, Grag. Je n'ai plus de chez moi, ni d'autre moyen de rentrer que mes pieds. Je loge à la maison Restart depuis que la mienne a été saccagée, et je profite de mon séjour là-bas pour faire des recherches sur les transactions que Davad a passées avec les nouveaux marchands. Je suis persuadé que si la compagne voulait bien m'entendre, elle verrait que Davad n'était pas un traître, pas plus que moi. » Les mots s'échappaient, et elle parvint, mais un peu tard, à maîtriser sa langue. Néanmoins, Grag l'écoutait avec gravité et hochait la tête. Quand elle se tut, il proposa « Si la compagne ne veut pas prêter attention à vos recherches, nous sommes plusieurs à nous y intéresser. J'ai beau douter de la loyauté de Davad Restart, je n'ai jamais mis en question la fidélité de la famille Vestrit à Terrilville, même si vous avez un peu trempé dans le trafic d'esclaves. » Ronica ne put que baisser la tête et se mordre la langue, car c'était la vérité. Ce n'était peut-être pas de son fait, mais le navire de sa famille était devenu transport d'esclaves, et il avait été perdu à cause de cela. Elle prit une inspiration. « Je serais heureuse de vous montrer, à vous et à ceux qui seraient intéressés, ce que j'ai trouvé. J'ai entendu dire que le nouveau marchand Minxley avait fait des propositions de trêve. Pour ce qui concerne ses relations d'affaires prolongées avec Davad, je me demande s'il ne cherchait pas à acheter les premiers marchands pour les rallier à sa façon de penser. Je serais ravi de voir les registres, mais ce soir je serais encore plus ravi de vous accompagner pour rentrer, où que ce soit. Je n'ai pas de voiture, mais mon cheval peut nous porter tous les deux, si vous ne voyez pas d'inconvénient à monter en croupe.
Je vous en serais très reconnaissante. Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Grag parut surpris par la question.
Oui, pourquoi ?
Ronica adopta le ton plein de bravoure de la vieille dame qui ne s'embarrasse plus de mondanité.
Pourquoi faire un détour pour moi ? Ma fille Althea a refusé votre main. Ma réputation à Terrilville est douteuse. Pourquoi risquer la vôtre en vous associant à moi ? Pourquoi insister pour qu'on enquête sur la mort de Davad ? Qu'est-ce qui motive vos actes, Grag Ténira ?
Il inclina la tête. Quand il la releva, une torche éclaira ses yeux sombres et dessina son profil. Il sourit tristement et Ronica se demanda comment sa fille avait pu fermer son cœur à ce jeune homme.
Vous posez une question directe et je vais vous dire la vérité. Je me sens moi-même quelque peu responsable de la mort de Davad et de votre malheur de cette nuit-là. Non à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que je n'ai pas fait.
Quant à Althea, il eut un grand sourire. Peut-être que je ne renonce pas aussi facilement. Peut-être gagnerai-je le chemin de son cœur en étant poli avec sa mère. Il éclata de rire.
Ça, mes témoins, j'ai tout essayé.
Une recommandation venant de vous sera peut-être la clé qui m'ouvrira son cœur. Venez. Mon cheval est par là.